Phare FM, aux portes du Dauphiné, 107.
L'invité.
Alors Naïs, vous êtes étudiante et slameuse lyonnaise. Vous avez sorti l'album Pause en octobre 2016, composé de 9 titres inédits, plus les 3 titres de votre EP, sorti l'an passé Horizon. Alors déjà, que représente un petit peu cet album pour vous ?
Ça représente complètement une pause en fait. J'ai trouvé que dans la société, tout allait trop vite. Et j'ai voulu offrir une pause aux gens, et j'ai voulu m'offrir une pause aussi pour sortir un album et puis quelques titres.
Une pause dans vos études, une pause dans votre vie ?
Ouais, j'ai fait une pause dans mes études pour sortir cet album. Et donc voilà, j'étais en studio, pause.
Et comment est-ce qu'il est né alors cet album ? Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous dire « je vais sortir un album » ?
Alors tout a commencé en mars 2014. C'est la première fois où je suis montée sur scène, où j'ai slamé Petite Fille. C'est le premier slam que j'ai écrit en fait. Et dans le public, il y avait Johan Salva, entre autres, qui m'a proposé en fait qu'on fasse de la musique ensemble et puis que je sorte un EP puis un album.
Et vous avez dit oui tout de suite ?
Ah ouais, tout de suite. J'en rêvais, je pense que j'en rêvais depuis que j'étais petite en fait. Et je pensais pas que ça pourrait arriver, puis finalement c'est arrivé.
Et comment est-ce que vous avez commencé à écrire ce titre Petite Fille qui est très fort pour vous puisqu'il est autobiographique, c'est quelque chose qui vous touche de très près ?
Exactement. En fait, je voulais devenir membre dans mon église et dans mon église pour devenir membre, il faut faire un témoignage de notre vie avec Jésus. Et du coup, je me suis un peu lancé le défi d'écrire en slam. Et c'est ma violoncelliste qui joue avec moi dans les concerts qui m'a dit « Allez, écris un slam, je fais du violoncelle et tu prends ta guitare et tu le fais ce dimanche-là. » Et voilà, ça a commencé comme ça.
Pourquoi un slam ?
Parce que je sais pas chanter. Non. Pourquoi un slam ? Parce que j'ai toujours écouté du rap depuis que je suis toute petite. Et j'ai toujours écrit depuis que je suis toute petite. C'est un peu notre culture familiale. Et du coup, dans un slam, on peut dire plein de choses, alors que dans une chanson, on peut dire moins de mots. Et donc, du coup, voilà, j'ai choisi le slam.
Et combien de temps il vous a fallu pour écrire ce premier morceau, Petite Fille ?
20 minutes, top chrono.
D'où est-ce que vous puisez cette inspiration quand on écoute votre album ? Les textes sont paracolores, sont pas prosélytes, c'est des choses qui sont hyper profondes. D'où est-ce que vous trouvez cette inspiration-là ?
Je sais pas vraiment. En fait, ça vient comme ça. C'est des pulsions qui arrivent. Et un matin, je me réveille, je me dis, là, il faut que j'écrive sur ce sujet-là, et j'écris. Et depuis que Jésus est dans ma vie, ça vient beaucoup plus vite. Et donc, je puise de Jésus, je puise de la Bible, je puise de ce que je vois dans la vie, les gens que je rencontre, etc.
Vous écrivez un peu n'importe où, finalement ?
Ouais, un peu n'importe où. Dans un milieu où je me sens un peu plus en sécurité, ça marche mieux en général, mais ouais.
C'est quoi le lieu le plus improbable où vous ayez écrit un texte ?
Dans un parc. Il n'y a pas plus improbable, je crois. Dans un parc, ouais, j'ai écrit un jour.
Et c'est vous qui composez la musique aussi ou vous écrivez d'abord vraiment les textes ?
J'écris d'abord les textes. En concert, c'est moi qui fais la musique. Mais sinon, pour l'album et l'EP, c'était Johan Salva qui m'a aidé à faire de la musique. Et il y a plein de fois où c'est que lui qui a fait d'ailleurs.
La musique a toujours fait partie de votre vie. Comment est-ce qu'elle est entrée dans votre vie ?
Depuis que je suis dans le ventre de ma mère. Elle me raconte toujours qu'elle écoutait tout le temps de la musique H24 quand elle était enceinte de moi. Du coup, c'est né de là, je pense. Et ouais, dans notre famille, la culture est très musicale. On va au conservatoire, on fait de la musique. Et donc en fait, tout le temps, ça a été ça.
Et donc vous, toute petite déjà, donc, vous écoutiez du rap, vous me disiez pourquoi le rap ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Qu'est-ce que ça vous apportait à l'époque ?
Mes potes écoutaient du rap. Donc déjà, ce qui fait que j'en écoutais aussi, par influence. Et j'ai toujours trouvé que les rappeurs, ils écrivaient avec leur cœur. Même si c'était des paroles souvent très hardes, très dures. J'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose de vrai et de sincère que je retrouvais pas tout le temps ailleurs.
Alors vous slamez vos souffrances, vos blessures, votre espérance aussi un petit peu quand même.
Ouais.
Dans vos textes, donc on a dit des textes pleins de poésie. Vous les avez tous écrits avant le financement de votre projet d'album sur Ulule ?
Non. Non, pas en fait, non. En fait, mon projet Ulule, à la base, c'était 10 titres. Et après, il y a l'instrumental Pause qui a été écrit. Et il y a deux autres titres qui sont nés après le financement de Ulule. Et j'ai écrit un mail à Johan Salva. Je lui ai dit, on peut rajouter deux titres, parce que j'ai deux titres en plus. Et du coup, il a dit, ok, voilà.
Pourquoi avoir opté pour le financement participatif ? C'est quelque chose qui se fait de plus en plus pour les jeunes artistes qui se lancent. Ça a été une évidence ? Vous vous êtes dit, naturellement, mon album, il passera par le financement participatif ?
En fait, j'avais pas de sous. Du coup, vu que ça se faisait, je me suis dit que peut-être que j'en aurais par là. C'était juste un côté financier, en fait, surtout.
Et vous y croyez? J'imagine que ça doit être compliqué de voir ce projet qui avance plus ou moins selon les jours. Il y a eu des moments où vous vous dites « j'arriverai jamais au bout ».
Oui, dès le début, je me suis dit que j'arriverai jamais au bout. Je ne suis pas quelqu'un de très très optimiste dans la vie, alors je me disais que ça n'allait pas marcher. Mais en fait, plein de gens y croyaient à ma place et du coup, ça me donnait un peu plus d'espoir, quoi.
Finalement, vous êtes lancé sans y croire? Comment est-ce qu'on arrive à avancer alors quand on n'y croit pas vraiment?
Bah, quand les gens y croient pour nous et quand je me rappelle les promesses de Dieu, je me dis que ça peut le faire.
Vous avez vraiment cette impression d'être soutenu par Dieu dans ce projet-là?
Complètement. Complètement, du début à la fin. Il était là. Ça se voyait, en fait.
Comment?
Ça se voyait par tous les gens qui m'envoyaient des mails, tous les gens qui participaient financièrement, tous les gens qui priaient aussi autour de moi, tous les concerts que j'ai pu faire aussi, tous mes proches aussi qui m'encourageaient tout le temps, en fait. Mes parents qui me soutenaient, etc.
Maintenant, votre témoignage passe toujours par le slam, partout où vous passez. C'est ce texte Petite Fille qui est votre témoignage?
Oui. Ouais, souvent je commence les concerts par Petite Fille pour me présenter. Mmh. Et ouais, partout où je vais, Petite Fille est le symbole de mon parcours, quoi.
Alors justement, qu'est-ce qui raconte ce titre? Quel est-il votre parcours? Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter un petit peu qui est Neïs?
Qui est Neïs? C'est une très bonne question. Je suis fait de mon passé, de mon présent. Il y a plein de choses qui m'ont amené à me demander pourquoi je vivais. En fait, depuis toute petite, je me dis quel est le sens de ma vie. Et pour moi, j'en trouvais pas tellement. Je voyais beaucoup de souffrance autour de moi, pas mal de suicides surtout. Le suicide a été quelque chose de très, très bouleversant dans ma vie, en fait. Et quel est le sens? Quel est le sens? Tout le temps, ça tournait dans ma tête. Jusqu'au jour où j'ai ouvert la Bible. Alors bien sûr, en famille, on l'ouvrait souvent. J'allais souvent à l'église, mais ça prenait pas sens. Quand je l'ai ouvert parce que je voulais l'ouvrir, j'ai commencé à comprendre que Dieu... Il me disait que j'étais pas une erreur et que ma vie avait un sens et qu'il avait un projet pour moi. Et c'est la première fois que j'entendais quelqu'un avait un projet pour moi et que c'était un projet bon et parfait. Et du coup là, ma vie a commencé à prendre un sens.
C'était à quel moment ça?
C'était en 2007.
Et à partir de là, votre vision des choses a évolué?
Ouais, ma vision des choses a évolué. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ma vision des choses évolue toujours. Mais je suis dans un processus de renversement de la pensée un peu, où j'essaie de penser avec Dieu au centre et non de penser avec moi au centre. Et voilà, c'est un processus qui est long, mais toujours plein de joie et malgré les souffrances et malgré tout ça.
Et mettre Dieu au centre de votre musique, au centre de vos textes, ça a été une évidence, ça, dès le départ?
Complètement. Complètement. Parce qu'en fait, s'il est au centre de ma vie, du coup, il ne peut que être au centre de mes textes, pour moi.
Vous parliez de suicide et justement le deuxième titre que vous avez sorti, c'est Mon ami, un titre très fort où vous laissez Dieu parler à travers vous sur la valeur de chaque individu finalement. Comment s'est passée l'écriture de ce texte?
En fait, ça s'est passé après la première tentative de suicide de mon meilleur ami. On était au cinéma ensemble, je me souviens, et après le cinéma, il m'a dit au revoir et je me suis dit que son au revoir n'était pas comme d'habitude. Il était... empreint de quelque chose où j'avais l'impression que je n'allais plus le revoir. La nuit a passé, il ne répondait plus à mes textos, il ne répondait pas à mes appels. Le lendemain, il m'a appelé, il était à l'hôpital, il avait fait une tentative de suicide. Et là, je me suis dit, je suis tellement impuissante parce que c'est mon ami, je lui offre l'amitié que je peux lui offrir. Et je suis là pour lui, on se voit souvent et en fait, ça ne suffit pas. Et je me suis dit, en fait, l'homme, il est tellement impuissant face à la souffrance qui envahit. Quelle personne pourrait faire quelque chose qui... Enfin, c'est pas possible. Et du coup, là, je me suis tournée vers Dieu et j'ai dit, mais toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de partir et qui a envie d'éteindre sa vie? Et j'ai écrit ce texte comme ça, en fait.
Et vous avez pu lui partager avant de le partager au grand public?
En fait, il est décédé avant que j'aie pu lui partager.
Oh, j'en suis désolée. Qu'est-ce que vous pensez qu'il aurait pu dire de ce texte?
Il savait en fait ce que je pensais de Dieu, il savait que j'avais Jésus avec moi. Je crois que... En fait, je sais pas où il en était, je sais pas trop en fait ce qu'il en aurait pensé. Je sais que ça le touchait quand je parlais de Dieu, je sais que ça le touchait quand je parlais de Jésus, parce que ça lui donnait un espoir. Et il est pas mort de suicide, mais du coup je sais pas... Je sais pas trop ce qu'il en pensait vraiment.
Finalement, est-ce que vous avez écrit ce texte pour en aider d'autres ou est-ce que c'était pas un petit peu pour vous aider vous-même?
Oh, je pense que j'écris pour m'aider et pour aider les autres. Je fais ça pour moi et pour les autres en fait, et pour Dieu. Et moi, j'ai écrit ce texte pour vraiment que Dieu parle aux autres et que ça empêche peut-être des gens de faire ça, et que ça donne un espoir aux gens.
Entre Petite fille et mon ami, vous avez commencé par deux textes qui sont très durs quand même. C'était pas les messages les plus positifs pour vous faire connaître? Comment est-ce que ça a été perçu? Comment est-ce que vous étiez perçu au départ, à votre avis?
Je ne sais pas vraiment comment j'étais perçue. Après, je sais que j'aborde pas des sujets très joyeux. Mais j'ai un public qui est assez en souffrance, ou en tout cas qui connaît des gens dans l'entourage qui est en souffrance, donc ils comprennent ce genre de texte en fait. Et moi, derrière la souffrance, je veux surtout voir l'espoir. Et c'est ce que j'essaie de mettre dans mes textes. C'est que c'est la réalité de la vie, il y a de la souffrance et c'est parfois très dur. Mais derrière ça, il y a l'espoir et il y a Jésus. Et ça, je veux vraiment mettre l'accent dessus.
Alors justement, votre album, il s'adresse... À quel type de public finalement? À des gens qui n'ont pas encore rencontré Jésus finalement?
Pour tout le monde. Moi j'aimerais encourager les chrétiens, ceux qui connaissent Jésus, à rencontrer, à re-rencontrer leur Dieu. Et j'ai envie aussi que ceux qui ne connaissent pas Jésus puissent connaître un peu de lui et le rejoindre s'ils le veulent.
Vous avez eu des belles collaborations, vous avez en tout cas une belle équipe pour la production de cet album. Avec donc vous avez parlé de Johan Salva, vous avez eu Jimmy Lai aussi pour les guitares notamment. Comment s'est passée cette collaboration avec tous ces grands noms de la musique chrétienne quand même?
Ouais. En fait j'ai choisi Johan Salva comme réalisateur de Pause. Et à partir de là, lui il avait ses connaissances, Jimmy Lai ou d'autres. Et du coup, il me disait, est-ce que ça te va, est-ce que ça te va pas? Et j'ai dit, ok. Donc en fait, c'est lui qui dirigeait un peu tous les musiciens autour de moi. Et du coup, ça s'est fait tout seul, tranquillement, simplement en fait.
Vous avez pu échanger un petit peu quand même aussi avec ces artistes sur,
oui.
Sur leur carrière, sur la manière dont ils avaient aussi évolué?
Ouais, j'ai pu échanger, j'ai pu les rencontrer en studio pour certains aussi, quand ils allaient enregistrer. Bon, pas Jimmy parce qu'il est un petit peu loin. Mais oui, on a pu échanger quelques mots, oui.
Ça vous a encouragé? Ils vous ont eu des mots qui ont su vous fortifier?
Oui, ils étaient très encourageants, très là en fait, avec moi dans ce projet. Et ils aimaient ce que je fais et ils donnaient vraiment de leur cœur dans cet album et ça m'a encouragée.
Vous avez vécu une année à part finalement?
Ouais, une année à part. J'ai fait aussi pas mal de concerts, donc j'ai rencontré aussi des gens et c'était bien.
Qu'est-ce que ça vous apporte les concerts?
Rencontrer le public, c'est pour moi le plus important. En fait, c'est même pas le public, c'est les gens. Personne après personne, ceux qui le veulent, me rencontrer, ça c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. Donc voilà, c'est de pouvoir échanger sur ce qu'ils veulent me dire, leur vie, tout ça. Ça c'est important pour moi.
C'est des choses qui vous inspirent aussi des fois, les témoignages qu'ils peuvent vous donner?
Ouais, complètement. Complètement. Il m'inspire beaucoup. En fait, les gens m'inspirent. Du coup, à partir du moment où je rencontre quelqu'un, il m'inspire.
J'imagine que vous avez dû entendre des témoignages aussi suite de gens qui avaient entendu votre album. Est-ce qu'il y a des témoignages qui vous ont tout particulièrement touché, des choses qui vous ont ému un petit peu?
Plein de gens qui m'ont ému. J'en ai pas un en particulier, mais j'ai reçu beaucoup de partages sur ce que l'album avait fait dans leur vie et la transformation qu'il avait pu avoir. Des gens qui sont rapprochés de Jésus ou des gens qui ont re-rencontré leur Dieu qu'ils avaient rencontré déjà avant. Des gens aussi qui se sont sentis compris dans leur souffrance. Et en fait, leur solitude leur a été enlevée grâce à ces quelques paroles. Et c'est encourageant pour moi.
Vous avez déjà d'autres projets de titres en écriture finalement? Néis 2017, ça donnera quoi?
Ça donnera des concerts surtout. L'écriture, ça me vient comme ça vient. Donc je me pose pas pour écrire. Moi, c'est ça vient, ça vient pas. Donc voilà, certainement des titres naîtront bientôt.
Et vous allez reprendre vos études?
Actuellement, je suis aide-soignante à domicile. J'ai pas repris mes études parce que j'ai fait des études d'infirmière. Actuellement, en fait, mon métier m'épanouit complètement. Et vu que j'aime bien faire des choses qui ont du sens, pour l'instant, ça a du sens pour moi, donc je reste là-dedans.
C'est ce que j'allais vous dire, finalement, c'est une manière d'exprimer l'amour aussi de votre Dieu, l'amour de Jésus au travers des gens, finalement,
ouais,
pour les gens.
Exactement, exactement. J'aime énormément ce métier, on rencontre les gens un à un dans leur intimité. Et c'est ça le sens de la vie pour moi.
Vraiment. Vous êtes aussi confrontée à beaucoup de souffrances, j'imagine?
Aussi beaucoup. J'apprends à être juste présente et à pouvoir rien faire parfois en fait, juste être là. Mais ils m'apportent aussi beaucoup de joie malgré leurs souffrances, beaucoup d'espoir aussi. C'est des gens assez merveilleux en fait. Et ils sont cloîtrés chez eux parce qu'ils sont souvent malades. Mais ils ont tellement, tellement à nous apporter.
Aujourd'hui, vous n'envisagez pas de devenir artiste à plein temps?
Non, j'envisage pas ça. Je crois que le jour où je verrai plus mes patients, j'écrirai plus. Donc je veux continuer à avoir mes patients.
C'est eux finalement votre source d'inspiration? On en revenait à la question de départ.
Ouais, aussi, ça fait partie. Et je crois qu'aussi j'ai envie de rester dans la réalité de ce qui se passe. Et j'ai pas envie de m'enfermer dans un studio, je crois que je m'ennuierai à la longue en fait. Voilà.
Comment ont réagi vos proches quand ils ont vu que vous aviez réussi votre projet? Finalement, c'est un aboutissement, ce projet-là?
Ils sont derrière moi depuis le début. Ils sont avec moi à fond. Je crois pas qu'ils doutaient, ou en tout cas, ils me l'ont pas dit. Donc voilà, moi je les sens là en fait, ils sont vraiment là.
Vous étiez la seule à douter. Pourquoi est-ce que vous doutiez alors que vous saviez que c'était un projet qui était de Dieu pour vous?
Parce que je doute souvent de tout. Mais parce que c'est un peu mon tempérament de douter de mes capacités, je crois. Et de ce que Dieu veut faire à travers moi. Mais ça s'atténue au fil du temps en fait. Quand je vois que ça marche, ça s'atténue.
Quel regard vous portez sur... Alors, ça va être une grande question philosophique. Quel regard vous portez sur la musique chrétienne francophone aujourd'hui? C'est quand même un peu compliqué, non? Quand on voit ce qui se fait aussi aux États-Unis, par exemple. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, aujourd'hui? Quel serait votre souhait?
Moi, j'aimerais bien que la musique chrétienne française aujourd'hui ressemble plus aux psaumes de David à l'époque. C'est ce qui me manque, je crois. Ça veut dire rien que la louange aujourd'hui, je trouve que ça ressemble pas du tout au psaume de David d'avant, et je sais pas trop comment expliquer ça, mais peut-être on parle pas assez de souffrance et du coup on parle pas assez d'espoir, et peut-être qu'on n'est pas assez dans la réalité de la vie. En tout cas pas pour moi. J'ai l'impression qu'on va pas assez dans ce qui se passe au quotidien.
C'est voilà. Le problème peut-être même des chrétiens au sens large, au-delà même de la louange, d'être un peu trop déconnecté.
Peut-être, je sais pas, et je veux pas porter de jugement ni de condamnation là-dessus, parce que moi aussi, parfois, je suis complètement déconnectée de la réalité. Mais je crois que mes patients aussi m'aident à ne pas être déconnectée de ça, vraiment. Mais voilà, ouais, je crois que ça manque de réalité pour moi, en tout cas.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, finalement? Là, on est bientôt à la fin 2016, début 2017. C'est la période des vœux, c'est la période des bonnes résolutions. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
J'ai envie de rester authentique. J'ai vraiment envie de rester authentique. Et j'ai vraiment envie que Jésus reste authentique en moi. C'est mon grand souhait de la vie, je crois.
Vous parliez de concert en 2017. Vous avez déjà quelques dates ou
Ouais, je fais un concert de sortie d'album le 4 février à l'église baptiste Courviton à Lyon. Ce sera le commencement de série de concerts. J'ai pas encore de date, j'ai des lieux, mais j'ai pas encore posé de date pour l'instant.
On pourra vous voir alors, de toute façon, quoi qu'il en soit.
Ouais.
On cite peut-être donc votre site pour connaître toutes les actus.
Neiscro.fr, Neiscros.fr.
Et ben voilà, merci beaucoup Neis.
De rien, merci à vous.